Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Valérie Gass.
Bienvenue dans la seconde partie de Mardi Politique. Nous retrouvons notre invité François Lamy, ancien ministre de la Ville et député de l'Essonne. Toujours à mes côtés pour vous interroger, François Lamy, Philippe Ognon de l'AFP et Laure Breton de Libération. Alors, François Hollande n'en finit pas de plonger dans les sondages toutes les semaines. On en a un nouveau qui n'est pas meilleur que celui de la semaine précédente. Sa cote de popularité atteint des niveaux historiquement bas. C'est une situation qui entraîne beaucoup de commentaires et de critiques. Après les deux claques aux municipales et aux européennes, certains parlementaires socialistes commencent à douter même de sa capacité à se représenter en 2017. Ces critiques, on en a parlé à Manuel Valls ce matin sur RMC. Et je vous propose d'écouter ce que le Premier ministre a répondu sur ces critiques à l'encontre du président de la République.
Moi, je suis fatigué, un peu écœuré des critiques, des petits mots, des petites phrases à l'égard du président de la République. Va-t-il rester ? Va-t-il pouvoir gouverner ? Mais évidemment qu'il va tenir. Évidemment qu'il va tenir ce quinquennat.
Alors François Lamy, est-ce que vous aussi vous êtes écœuré des attaques contre François Hollande ?
Non, mais effectivement, je suis un peu fâché. À la fois des critiques contre le président de la République, mais aussi sur le fait qu'une fois de plus, on démarre la présidentielle trop tôt. La présidentielle, c'est donc 3 ans. Le gouvernement, enfin le président de la République est là depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Voilà. Donc on n'est même pas à la moitié du quinquennat. Bon. Et on commence déjà à spéculer, supposer, et ainsi de suite. C'est pas le sujet. Et en plus, je pense pas que ce soit la préoccupation première des Français. Donc,
voilà. C'est la préoccupation des députés, en tout cas.
Oui, mais je crois qu'il faut que...
On parle beaucoup de...
on pourra... Oui, bien sûr, parce que...
C'est lorsque, une comme préoccupation en soi, quand même.
Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas... on est dans l'action, actuellement, et donc c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai connu d'anciennes générations de députés. J'en vois une nouvelle génération qui est celle de l'inversion du calendrier du quinquennat. Bon, dont on n'a pas tiré, je pense, toutes les conséquences politiques encore et peut-être même un jour institutionnelles. Vous avez des parlementaires qui souhaitent être beaucoup plus engagés dans l'action du gouvernement, à la fois dans le contrôle, mais dans la coproduction législative. Moi, je l'ai bien vu d'ailleurs quand j'ai fait la réforme de la politique de la ville, avec une carte, là aussi, qui était une carte compliquée à faire, puisque elle visait à concentrer, à passer de 2500 à 1300 quartiers, le nombre de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et j'avais très vite vu que si on n'engageait pas les parlementaires avec soi bien en amont de la présentation du texte au Conseil des ministres, alors la réforme risquait de ne pas fonctionner. Voilà. Donc je pense qu'il y a peut-être une autre méthodologie. Je sais que Manuel Valls l'a dit, il souhaite d'autres rapports entre le gouvernement et le groupe majoritaire ou les groupes majoritaires. Je pense que après ça doit se vérifier ministre par ministre. Mais après, pour répondre à votre question, il faut qu'on soit conscient, on est tous dans le même bateau. Parti socialiste, député de la majorité, gouvernement, Premier ministre, président de la République, on est tous dans le même bateau. Si le président de la République échoue, alors on échouera tous. On l'a vu d'ailleurs aux élections municipales, lorsqu'on veut critiquer ou sanctionner la politique du gouvernement ou celle du président de la République, on sanctionne d'abord les socialistes.
C'est de la science-fiction d'imaginer qu'il y a une alternative à François Hollande en 2017.
Mais soit je me pose même pas la question. Voilà, c'est pas le sujet. Pense que le sujet, il viendra. Il viendra à un moment en discussion, mais là, si on commence nous-mêmes à intérioriser je ne sais quoi, voilà, là encore, restons fermement sur nos réformes, sur la réforme territoriale, sur la réforme pénale, sur éventuellement la loi de finances rectificative, l'économie, enfin, voilà, on a beaucoup d'autres choses à faire que de spéculer.
On a bien compris, il y a des réformes à mener, mais il y a quand même aussi 2 défaites électorales importantes à gérer, sur lesquels beaucoup maintenant d'élus, de parlementaires socialistes disent qu'il y a une grosse responsabilité de François Hollande. C'est un problème, François Hollande.
Mais la question, c'est de savoir comment on va réagir tous collectivement par rapport à ça. On va le faire à l'intérieur du Parti Socialiste avec les états généraux qui vont être lancés par Jean-Christophe Cambadélis, avec les militants, avec les sympathisants, pour qu'on ait ce travail de réflexion qui nous a peut-être manqué ces 2 dernières années pour comprendre où est-ce que nous en sommes actuellement dans un pays qui subit à la fois une crise économique et sociale, mais aussi une crise d'identité. Voilà. Bon, moi je crois que, je veux dire, c'est trop simple de tout résumer en disant c'est de la faute du président de la République.
Mais
voilà.
Il a quand même une part de responsabilité. Que, tout n'est pas forcément de sa faute, mais il faut
sûr
aussi
qu'il peut avoir sa propre part.
Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a des déceptions des Français, une colère.
Voilà. Actuellement, il est en train d'engager une réforme territoriale. Et là encore, on le critique parce que lui, à qui on reprochait peut-être de ne pas prendre de décision, là, on lui dit qu'il l'a prise, trop vite. Vous voyez bien qu'on est dans le commentaire superficiel de la part d'une partie de la classe politique. Et donc, restons sur l'essentiel, restons concentrés sur nos réformes. Faisons que le groupe socialiste améliore les projets du gouvernement. Voilà, et on en reparlera au moment de la loi de finances rectificative ou de la loi de finances initiale pour l'année 2015. Il faudra des améliorations, c'est clair. Il faut que, pour pouvoir donner tout plus de cohérence à notre action, c'est souvent aussi ce que nous reprochent les Français, de ne pas complètement comprendre tout ce qui a été fait ou tout ce qui est en train de se faire. Quand on prend individuellement chacune des mesures prises, ils sont d'accord, il ne voit pas toujours la cohérence d'ensemble. Je pense que c'est effectivement dans une plus grande harmonie entre le groupe majoritaire, les parlementaires et le gouvernement qu'on trouvera la solution à cette mise en cohérence.
Laure Breton.
Mais quand même, il y a des sujets qui vous tiennent plus particulièrement à cœur que d'autres, c'est-à-dire la politique de la ville, les quartiers, la jeunesse, dont François Hollande avait fait une priorité pendant sa campagne présidentielle. Et on insiste, en tout cas certains dans votre famille politique insistent sur la responsabilité du président de la République dans les deux défaites que vous venez de subir. Est-ce que justement sur ces sujets-là, sur les quartiers, sur les jeunes, est-ce que c'est pas ça qui pose un problème? Il y a une rupture entre les quartiers, entre les jeunes et les socialistes et le président de la République. Et ça c'est pas porteur de nuages noirs pour la
suite. Il y a une rupture qui vient peut-être d'une incompréhension compte tenu de la situation économique et sociale à l'intérieur de ces quartiers. Moi, je les connais bien. Je vous dis, j'en ai fait plus de 150 lorsque j'ai été ministre et j'étais souvent, très souvent en contact direct de ces jeunes. Ces jeunes qui se retrouvent, pour la plupart d'entre eux, avoir quitté le système scolaire à 14 ans, qui se retrouvent à 18, 19, sans aucune... à tenir les murs, pour certains, à faire du trafic de stupéfiants, bon, et qui tout d'un coup vous disent « on veut du boulot, on veut de l'emploi ». Voilà. Mais qui ne sont totalement inadaptés à cela. Bon. Et qui comprennent mal pourquoi tout d'un coup ils n'ont pas tout de suite l'emploi, le logement, ce qui pourrait améliorer bien entendu leur vie quotidienne. On l'a vu avec les emplois d'avenir, qui n'étaient pas totalement adaptés à un type de public à l'intérieur des zones urbaines sensibles. Après, en même temps, moi je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur ces quartiers. Et moi je souhaite que le gouvernement mette un peu plus. J'ai regretté la séparation entre le ministère de l'égalité des territoires et du logement et celui de la ville. Voilà, je pense que à terme il faudra penser à autre chose. Je pense qu'il faut à un moment un ministère qui gère l'ensemble de la cohésion urbaine, parce que cette question des villes est une question majeure, pas seulement pour les quartiers d'ailleurs, pour réparer la question des fractures territoriales à l'intérieur de ce pays. Je pense qu'elles sont beaucoup marquées aussi le vote à la fois aux européennes, aux municipales du Front National. C'est la carte de ces fractures territoriales. Voilà. Donc il faut continuer. Je veux dire, faut pas baisser les bras par rapport à ça. Et en même temps, faut constater qu'on est dans une situation difficile, dans l'obligation de faire des économies. Et donc, il faut que ces économies soient les plus intelligentes possibles pour qu'elles soient les plus efficaces possibles pour effectivement résoudre ces questions sociales, quoi.
Vous parliez du vote Front National. Est-ce que pour vous, l'exécutif a assez pris en compte le résultat de ces scrutins et en a tiré des leçons qui sont audibles par les Français?
Je crois qu'il y a eu une première réponse du Premier ministre qui a annoncé des allègements d'impôts pour jusqu'à une fois 1,2 le SMIC, bon, pour tous ceux qui risquaient de rentrer dans l'impôt ou qui étaient
rentrés. Qu'on avait fait rentrer dans l'impôt, voilà, par les mesures fiscales qui avaient été prises.
Bon, mais dans une situation budgétaire difficile, je pense que c'est un acte important. Il en faudra certainement d'autres.
Bon. De quel ordre?
Je pense qu'il faudra réfléchir sur, entre autres, sur d'une part en ce qui concerne les citoyens eux-mêmes. Moi, j'avoue que je suis assez dubitatif avec la question du gel de l'aide personnalisée au logement, qui me semble toucher et frapper les plus défavorisés. Et en même temps, quand je vous dis ça, Je ne me satisfais pas du fait que on ne fasse qu'en matière de logement que de distribuer entre guillemets des aides pour pouvoir payer son loyer. Il y a un travail plus général à mener pour qu'on construise du logement, parce que finalement, c'est ça le véritable point de difficulté pour les Français. Donc il faut à la fois un équilibre entre des mesures de réduction de dépenses, elles sont obligatoires, voilà, des mesures qui permettent d'accompagner les Français, et surtout tout particulièrement les plus défavorisés, et des mesures surtout qui en même temps stimulent l'investissement. Voilà, je vous prends un autre exemple. Il est prévu une baisse de la dotation globale de fonctionnement. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait moduler cette baisse, voire même avoir une hausse de la DGF, entre autres pour les communes qui s'engagent à construire du logement social. C'est-à-dire que qu'on profite de ce plan d'économie et de rationalisation de nos dépenses pour en même temps aider ceux qui investissent, parce que c'est comme ça qu'on prépare aussi l'avenir.
Est-ce que vous disiez tout à l'heure sur la cohérence, justement, c'est pas ça qui manque. On annonce des baisses d'impôts, on a vu à la veille des européennes, on a l'impression que c'est un peu comme ça, saupoudrer, essayer de tirer...
Le Premier ministre, à ce moment-là, Manuel Valls a répondu à une demande du groupe parlementaire, voilà, qui lui demandait par rapport au plan qu'il avait affiché, par rapport au pacte de stabilité, de prendre des mesures. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir entendu les parlementaires de la majorité qui eux-mêmes reflétaient ce que pensaient les citoyens. Bon, donc voilà, c'est pas de l'incohérence, c'est le fait aussi d'être en capacité de s'adapter à une situation politique et sociale, quoi.
Alors, on parle beaucoup, on essaye de vous faire parler beaucoup de la responsabilité d'exécutif dans la défaite des municipales et des européennes. Pour les européennes, le premier secrétaire du Parti socialiste avait changé. C'était Jean-Christophe Cambadélis. Alors, est-ce que sa volonté de faire une campagne lui disait une campagne pan-européenne, une campagne avec Martin Schulz en tête de gondole, le candidat des sociodémocrates à la Commission européenne. Est-ce que tout ça, c'était le bon choix? Ou est-ce qu'il y a un petit mea culpa, vu le score finalement que le PS a obtenu, de la campagne menée par le PS?
Pour essayer de répondre à votre question, je me dis d'un coup qu'elle aurait pu être l'autre campagne. Bon. Moi, ce que je regrette finalement, c'est que... moi, je pense que c'était le bon choix. Parce que je vais vous dire... Pour la première fois, ça n'a pas été suffisant, mais après tout, ça va profiter pour l'avenir. C'est la première fois que on est moins dans un débat sur pour ou contre l'Europe que sur quelle Europe nous voulons. Et c'est la première fois que, par la personnalisation d'ailleurs...
Et le pour ou contre l'Europe, on est quand même avec un Front National en tête qui est contre l'Europe et qui a fait une campagne
contre
l'Europe. Donc mais c'est, reste que le parmi, PS a essayé de faire autre chose. Mais bon.
Pas que le PS d'ailleurs, l'UDI, l'UMP, on ne les a pas trop vus sur cette campagne. Mais au moins, il y a eu l'amorce d'une certaine politisation du débat européen. Il y a des politiques européennes qui sont de gauche ou de droite. Voilà, elles sont différentes. C'est pas l'institution en tant que telle qui doit être critiquée, c'est la politique qu'elle mène. Voilà. Malheureusement, en 7 semaines de campagne électorale, après surtout la claque qu'on a prise aux élections municipales, c'était compliqué de faire mieux en termes de campagne. Je pense que le résultat aurait été différent s'il y avait eu, comme pour n'importe quelle élection, 2 mois ou 2 mois et demi. Quoi.
Philippe Ognon.
Continuons à parler du PS qui vient de changer donc de premier secrétaire. Vous êtes conseiller politique du nouveau premier secrétaire. Quelle est votre mission? Rebâtir le PS? Non, mais la mission de la nouvelle équipe, le PS qui est mal en poids, est-ce que vous êtes chargé de produire une nouvelle doctrine, une nouvelle stratégie, de relancer le militantisme?
Je pense qu'un parti politique, lorsqu'il est dans la majorité, a plusieurs missions. D'abord, il doit organiser le soutien à la politique du gouvernement.
Énorme tâche.
C'est-à-dire organiser le lien entre la politique menée par le gouvernement, mettre en lumière, et ensuite que ses militants, ses élus sur le terrain aillent voir les citoyens, s'expliquent, ainsi. Ça suppose une véritable organisation. Bon. La deuxième tâche d'un parti politique dans la majorité, c'est de préparer les échéances. Bon. Et entre autres,
2017,
les
alors.
Candidatures.
Mais non, avant la prochaine,
c'est une élection régionale.
Et départementale.
Et une élection départementale. Ah, ouais. Voilà. Et donc, hier même, avant même des sénatoriales, les sénateurs voudraient d'oublier l'élection sénatoriale.
Bon. Dans donc, laquelle le Parti Socialiste suppose, joue aussi.
Ça suppose de préparer les nouveaux candidats, le renouvellement. Bon. Et puis, il y a une troisième, troisième fonction, c'est d'éclairer l'avenir. Et ça sera, je pense, peut-être l'objet de la consultation, en tout cas l'un des objets de la consultation que des États généraux que veut lancer Jean-Christophe Cambadélis, c'est la capacité aussi à se réinterroger par rapport à la situation actuelle, à la crise que nous vivons. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on sait bien que c'est une crise économique et sociale, mais pas que. Voilà. Il y a aussi, on sent bien que ce pays est inquiet, est en quête d'avenir, en quête d'identité, le rôle de la... Voilà. Et ça, c'est le rôle peut-être du parti de remettre au travail. On n'a pas assez vu les intellectuels, mais aussi les praticiens de l'action, le monde associatif, le monde syndical, travailler avec le Parti Socialiste. Et puis, enfin, renouer les liens avec la gauche. Voilà, on a un travail qui doit être sérieux, concentré et surtout effectif dans la durée avec à la fois les partis qui sont au gouvernement, le PRG, bon, mais avec les Verts, voire même avec d'autres formations de gauche, je pense au Parti communiste, quoi.
Et aussi intégrer l'existence d'un tripartisme en France maintenant.
Oui, mais il y a une
avec
situation.
Avec un danger pour la prochaine élection présidentielle.
Bien sûr, mais de toute façon, on a
un travail. Qui est quasi
intégré
maintenant.
Les uns et les autres, on a tiré des conclusions du fait que tous ceux qui, bien entendu, se battent contre cette formation qui est le Front National, dont on sait très bien qu'elle est à la fois extrémiste, nationaliste, démagogue, qu'elle n'a pas les bonnes réponses par rapport à la situation économique du pays, on doit tous reconnaître aussi que le discours que nous avons tenus les uns et les autres n'a pas suffi. Bon, et donc ça suppose effectivement une réflexion de fond, parce qu'il y a un risque réel, effectivement, que le Front National parvienne à des pouvoirs nouveaux, voire même au pouvoir suprême, quoi.
Laure Breton.
Vous parlez des états généraux du Parti Socialiste ou de la gauche que Jean-Christophe Cambadélis veut organiser à l'automne. Certaines voix s'élèvent maintenant pour dire, bon, ça suffit, il faut un congrès.
Mais il y aura un congrès.
Mais quand façon.
Mais il y aura un congrès.
Vos statuts disent que ce sera dans le courant de 2015, mais...
Non, bon. nos statuts, pour être exact, disent c'est à mi-mandat. Voilà. Bon, donc là encore, il m'appartient pas de donner le calendrier aujourd'hui, mais Jean-Christophe Cambadélis a dit la semaine dernière devant le bureau national du Parti Socialiste, il y aura d'abord les états généraux et après un congrès. Bien sûr, puisque d'abord à la fois c'est statutaire et qu'en plus c'est assez normal que bien entendu on consulte nos militants. Alors après, est-ce qu'il faut à l'intérieur de cette consultation militante que sera le congrès rebalayer l'ensemble du projet socialiste? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut qu'on se limite à un certain nombre de questions? Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes partie de gouvernement et que ce congrès, ces états généraux, ce congrès doivent aider aussi les membres du gouvernement, quoi.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. François Lamy, comment vous voyez, le PS ne va pas très bien, mais l'UMP non plus, comment vous voyez la crise que traverse actuellement l'UMP?
Moi, je la trouve dramatique. Dramatique pour la démocratie. Bon, voilà, je pense que cette course obsessionnelle vers le pouvoir individuel que certains ont, ils sont en train de tuer la boutique. Et comme c'est une formation qui a été créée uniquement pour gagner les élections et qui n'a pas eu vraiment l'habitude du débat en son sein, voilà, ce qui fait la différence avec le Parti Socialiste. On a beaucoup critiqué les courants, voilà, mais les courants, c'est aussi à la fois bien entendu des écuries présidentielles pour certains d'entre eux, mais c'est aussi des lieux de réflexion. Nous sommes organisés comme tels, voilà. Eux, ils ont toujours refusé, voilà. Moi, je le regrette, parce qu'il faut une formation d'opposition, quoi. Bien sûr.
Bon, il y a beaucoup d'actualités pas très gaies, mais on va en avoir une qui va être beaucoup plus amusante, gaie en tout cas, la Coupe du Monde de football qui va bientôt commencer.
Ouais.
Vous allez la suivre. Est-ce que ça peut enlever un petit peu de morosité au débat français?
J'en sais rien. Je sais
rapidement,
que...
François Lamy.
Ouais, vous savez, je vais être comme là. Je vais pas dire la plupart des Français, parce que voilà, moi je suis moins le foot que le rugby. Voilà.
Ah,
donc,
ah,
je fais partie. Je fais partie de ces Français qui s'intéressent aux événements sportifs quand la France y est et surtout quand elle gagne. Donc voilà. Donc j'ai vraiment envie de m'y intéresser.
Espérons qu'elle gagne. Merci François Lamy. C'est la fin de Mardi Politique. Donc François Lamy, ancien ministre de la Ville et député de l'Essonne. Merci à Laure Breton, Philippe Onillon, et à la semaine prochaine.